Ce chapitre dédié sur les mines de l'orgueil. Et on termine avec justement ce qui devrait nous aider. Alors, c'était pour ceux qui ont les notes, la page 13, avec sept choses pour nous aider à avoir la victoire sur l'orgueil. Et la première chose pour combattre l'orgueil, c'est la même chose qu'on retrouve même dans le monde quand quelqu'un veut se débarrasser d'un problème dans sa vie, d'un problème récurrent. Souvent, on fera allusion au alcoolique anonyme, etc. La toute première chose qu'ils doivent faire, c'est d'admettre qu'ils ont ce problème. C'est d'admettre. La première chose qu'ils font, c'est de se présenter, de dire leur nom, je suis tel et un tel, et je suis alcoolique. Tant qu'ils ne font pas ce premier pas, ils ne peuvent rien faire d'autre pour les aider, pour surmonter le problème de l'alcoolisme, et c'est pareil pour d'autres endroits, pour d'autres vices, d'autres problèmes. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens par rapport à l'orgueil. Ce n'est pas qu'on va se réunir entre nous, dire moi je suis tel et tel et je suis orgueilleux. Non. Mais qu'on soit honnête avec nous-mêmes et avec le Seigneur, qu'on n'excuse pas, qu'on ne néglige pas, qu'on ne dit pas oui, je vois ceci chez les autres, etc. Mais de réaliser et admettre que l'orgueil, je dirais même pas de dire que ce serait possible parfois d'être dans ma vie, mais qu'il est présent dans ma vie. C'est un peu comme admettre et réaliser que ma nature pécheresse est présente. Elle n'est pas toujours dominante, elle n'est pas toujours celle qui a la victoire sur moi, mais elle est là. Et c'est un peu la même chose avec l'orgueil, de devoir réaliser que et admettre l'orgueil est présent, pas pourrait être ou est parfois présente, mais elle est toujours présente. Et parfois, on est dans une situation où on laisse Dieu nous aider à garder cet orgueil en contrôle et ne pas laisser cet orgueil nous contrôler et nous dominer, mais elle est toujours présente. Dès l'instant qu'on enlève cette mise en garde, dès qu'on enlève ce garde-fou, pour ainsi dire, ben, l'orgueil sera toujours présent, parce qu'elle est toujours présente. Et il faut comprendre cela, il faut commencer par cette première étape. Le chrétien qui ne veut pas admettre cette première étape et dire qu'il n'a de problème avec l'orgueil que parfois, que dans des situations quand les circonstances sont favorables pour que je sois un peu plus faible spirituellement parce que je passe par des difficultés, on l'avait dit aussi dans le passé, que même notre état physique va affecter notre état spirituel. Oui, dans ces conditions-là, ou quand je suis souvent attaqué ou mécompris, etc. Non. Qu'il enlève toutes les excuses externes qui sont en dehors de lui, qui disent je suis coupable. L'orgueil est toujours présent dans ma vie. Parfois, elle est plus présente que d'autres. Parfois, le Seigneur me fait grâce et m'aide à la garder sous contrôle. Mais je dois admettre, je suis un être orgueilleux. Livré à moi-même, livré à la personne que je suis moi, je suis une personne orgueilleuse. Et c'est seulement cette nouvelle nature que Christ nous donne à travers le salut, c'est seulement par la force du Saint-Esprit, par l'enseignement des Écritures et par l'aide de Dieu lui-même que cet être orgueilleux que je suis peut être mis à mort et ne pas dominer dans ma vie. Et si on commence pas avec cette réalisation, déjà on se reposera la question qu'on s'est posée les semaines passées. Pourquoi est-ce qu'on refuserait d'admettre cela? Ce serait l'orgueil en lui-même. Ce serait la fierté. Ah non, c'est pas l'orgueil, c'est juste la vérité. C'est pas comme ça. Je suis pas comme ça, je t'ai dit. Et donc, on est obligé de commencer par cette première étape. Si on veut pouvoir progresser, et c'est seulement ça. C'est seulement une première étape. Cette première étape est l'une des plus difficiles. Et parce qu'il faut cette bonne dose d'humilité, mais également d'honnêteté pour admettre que nous avons déjà ce défaut. Et ensuite, quand nous avons, on va pas, il faut se repentir et non excuser cet orgueil. Ça, on ne parle plus de cet état pécheur que nous avons, le fait qu'il est toujours présent dans ce sens-là, mais quand on se soumet à notre orgueil, quand on laisse l'orgueil nous dominer au lieu de réagir de façon biblique, au lieu de réagir par le fruit de l'esprit, on réagit par la chair et on réagit avec orgueil et arrogance, ben, on se doit de pas seulement admettre qu'on était orgueilleux, mais de se repentir, de vouloir ne pas excuser, pas expliquer toutes les raisons qui nous ont poussés à arriver à ce stade-là, mais de dire, peu importe les circonstances, peu importe ce que les autres m'ont dit, m'ont fait pour attiser et attirer même mon orgueil, j'avais tort et j'ai tort. Et pour cela, on sait ce que ça implique. Si on parle de repentir, c'est que on doit voir l'orgueil pour ce que c'est. C'est un péché. C'est pas un défaut, comme le monde veut le montrer. Ce n'est pas une faiblesse dans ma vie. C'est un péché. Vouloir s'en débarrasser, ne plus y revenir, ne plus nous laisser emporter, contrôler par l'orgueil, c'est de se repentir. C'est de voir l'orgueil comme Dieu le voit. Et on a passé du temps pour voir de quelle manière Dieu voit l'orgueil, n'est-ce pas? Il est verset après verset. Comment Dieu a en horreur l'orgueil. Il ne l'excuse pas, l'orgueil, mais il le pardonne quand on l'admet. Et pas seulement dans notre pensée, ou pas juste de vouloir se repentir et se débarrasser de cela en nous-mêmes, mais de vraiment faire part à Dieu. Parce que de se repentir, c'est de regarder l'orgueil comme Dieu le voit, ben ça veut dire qu'on va inclure Dieu dans cette repentance. On va dire, Seigneur, c'est mauvais parce que c'est toi qui l'as dit que c'était mauvais. C'est répugnant, c'est un péché parce que ça t'enfreint toi. Pas juste tes règles, mais ta personne même. Et je ne veux plus être une personne qui va à l'encontre de ta personne. Je veux changer cela. J'ai eu tort. Excuse-moi, pardonne-moi mon orgueil. Et je veux changer. Je ne veux pas recommencer. Donc lui demander pardon pour l'avoir offensé. Demander pardon pour s'être laissé contrôler par l'orgueil au lieu de d'écouter et de se soumettre au Saint-Esprit qui nous disait, non, ne réagis pas comme cela. Ne dis pas ceci. C'est de t'enfler toi d'orgueil, c'est de te promouvoir toi. Arrête, mais admettre que nous sommes sans excuse et ensuite le remercier pour son amour et son pardon qu'il offre par sa grâce. Ça fait partie de la repentance. Donc, à cette première étape, ce premier pas, oui, de reconnaître et d'admettre, ensuite se repentir et non excuser cet orgueil. Et ensuite, une partie de cette repentance se fera à travers justement la prière. Il faut prier, mais ce n'est pas juste une prière comme on voit beaucoup autour de nous, que ce soit les catholiques ou d'autres, qui récitent des paroles alors qu'ils le sens de ces mêmes paroles, ils n'en sont même pas convaincus eux-mêmes. Mais d'être convaincu que Dieu peut nous aider et à nous détourner de l'orgueil. Parce que l'orgueil, oui, c'est à la une main prise et puissante sur nous. On en a parlé longuement. Et certains pourraient croire, mais je n'arriverai jamais à me débarrasser d'un tel fléau dans ma vie, d'un tel péché dans ma vie. Et c'est vrai, on ne peut pas. Mais si on va reconnaître qu'on a tort, reconnaître que le problème est là, et ensuite se repentir et dire que je ne veux plus le faire, on doit également reconnaître que Dieu n'est pas seulement capable de nous pardonner, mais Dieu est également capable de nous aider à ne plus nous laisser influencer par cet orgueil, par cette fierté, par cette arrogance. Parce qu'il est toujours bien de se repentir, hein, c'est même essentiel. Mais on aurait tort de croire que, ça y est, je me suis repenti, ça s'arrête là. C'était ma prière de repentance. Mais il faut continuer à prier et demander l'aide de Dieu, de nous aider à nous débarrasser entièrement de ce péché. Et croyez-vous que Dieu veuille vous aider à vous débarrasser de l'orgueil dans votre vie? Ou est-ce que vous croyez que Dieu est indifférent de l'orgueil qui se trouve dans votre vie? Non. Bien entendu, Dieu désire nous aider. Alors, la question serait, est-ce qu'on croit que Dieu est capable de nous aider? Est-ce qu'il est assez puissant? Est-ce qu'il est assez sage? Est-ce qu'il est assez patient? Est-ce qu'il est assez bon? Est-ce qu'il est ce que vous voulez? Est-ce qu'il est capable d'enlever ce péché dans ma vie? Alors, si on croit que oui, alors pourquoi ne pas prier pour lui demander pour son aide? Alors, qu'est-ce qui vous empêche de prier et de demander à Dieu de le faire? Même si ça veut dire que Dieu envoie peut-être des difficultés. Hein, c'est comme quand on prie pour la patience. D'accord, je vais t'aider à être patient. Ben, tiens, ce petit problème. Ah ben tiens, ce petit imprévu. Ah, tu m'as demandé pour la patience. Hein, il faut savoir ce que tu veux maintenant. C'est pour ça que je ne prie plus pour la patience. Je suis marié, j'ai pas besoin. J'en ai assez. Non. Je l'ai. Elle le sait, elle le sait. Puis c'est en plus enregistré. Mais si on va demander à Dieu de nous aider à nous débarrasser d'un péché, et surtout celui de fierté et de l'orgueil, il faut que nous, on soit sincères, qu'on veuille réellement s'en débarrasser, et que si on dit, Seigneur, aide-moi à m'en débarrasser, on est en train de lui donner carte blanche, dit Seigneur, ce qu'il faut que tu fasses, fais-le pour que ce péché ne soit plus dans ma vie, parce que je veux m'en débarrasser. C'est pas juste. Parce que c'est une bonne phrase qui, je pense, te ferait plaisir, mais tu sais qu'au fond, je sais que ça, on n'y arrivera jamais. Non, Seigneur, je veux vraiment m'en débarrasser. Si tu dois admettre et même envoyer dans ma vie des choses désagréables pour qu'à la fin, j'ai la joie et le bonheur de pouvoir voir ce péché débarrassé dans ma vie, ben fais-le. Pour nous apprendre, parce que comme la patience, il envoie des difficultés. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire pour nous aider à ne pas être orgueilleux, si ce n'est nous humilier? Et même le monde le dit, les leçons d'humilité ne sont jamais plaisantes. Mais elles sont efficaces. Elles peuvent être efficaces. La quatrième chose, c'est de continuer à prier, mais ensuite, dans le but de demander à Dieu de nous aider à rester éloignés de ce péché. On a admis, on s'est repenti, on a demandé pour de l'aide de Dieu, pour se débarrasser, mais maintenant il faut continuer à prier pour demander à ce que le Seigneur nous aide à rester éloignés. C'est encore un point spécifique à lui seul. Parce qu'il n'y a aucun mal à demander à Dieu de nous aider à discerner, à voir les mines de l'orgueil sur notre chemin. Surtout avant qu'il soit trop tard. Il faut le faire d'ailleurs. Mais la meilleure façon de ne pas se faire avoir par une mine, c'est de savoir qu'elle est là avant qu'on marche et de pouvoir la contourner, n'est-ce pas? Et dire, Seigneur, montre-moi, aide-moi à rester éloigné parce que tu sais que j'ai beaucoup de mal à résister à cette mine. Tu sais que j'ai beaucoup de mal avec cette tentation, que j'ai beaucoup de mal à dire non et que parfois tu m'aides. Les autres fois, tu m'aides toujours, mais parfois je t'écoute, parfois je t'écoute pas. Alors, si tu peux m'aider à même me rester éloigné pour que je n'aie même pas l'occasion de te dire non, aide-moi, Seigneur. Comme un père prendrait son enfant et l'éloignerait d'un endroit qui ne devrait pas être. Et c'est pareil avec l'orgueil, qu'on doit prendre l'habitude de prier pour que le Seigneur nous montre où se trouve l'orgueil dans notre vie. Parce que ce sera. Pour chacun d'entre nous, ce sera dans des domaines différents, selon généralement les domaines dans lesquels on est doué. C'est dit, ah ben, et que quelqu'un vienne et nous dise, ah ben, moi je sais plein de choses sur, peu importe, hein, la mécanique. Ben, je connais un pasteur qui est très très fort pour tout ce qui est mécanique. Pour les voitures, etc., mécanicien, et quelqu'un vient lui dire, oh, moi je suis très doué, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela, et le pasteur, en l'écoutant, il sait qu'il est en train de dire n'importe quoi parce que ce qu'il a dit là, ça fonctionnerait pas. Et lui dit, oh, si, si, moi j'ai trouvé une nouvelle astuce, ça marche super bien. Ça. Ben, la tentation, c'est de laisser son orgueil prendre le dessus, dire, écoute, arrête de parler, laisse-moi te dire la vérité. Et on est tous pareils. pour. Il y en a ici qui sont doués avec le chant, d'autres qui sont doués avec le dessin, d'autres qui sont doués manière dans le sport ou dans les langues, dans tellement de choses différentes. Il suffit que quelqu'un nous dise quelque chose dans notre domaine que nous savons n'est pas vrai, n'est pas juste, n'est pas bon, pour que on veuille corriger. Et il n'y a pas de mal à pouvoir corriger une situation qui est tort, mais la façon qu'on le corrige. La tentation sera toujours là d'un peu de dire, ah, écoute, moi je sais. On ne le dira pas avec ces paroles-là, de cette façon-là. Mais quand on prie à ce que le Seigneur nous aide à rester éloignés du péché, c'est qu'on est en train de lui demander de nous montrer quels sont les domaines dans ma vie où je suis plus susceptible à tomber dans ce piège que d'autres. Quelqu'un me parle de poésie, je vais pas le contredire parce que j'y connais rien en poésie. Il dit ce que tu veux. Qu'ils me disent, moi, je suis jamais allé aux États-Unis, mais je sais que c'est comme ça, que c'est comme ça, que c'est comme ça. Et quand que je sais que c'est pas vrai, bon, peut-être que là, ou surtout s'il est en train de dire des choses qui sont pas vraies et en plus qui montrent d'une manière négative, ben là, j'ai envie de dire, de prendre la défense. De mon pays, ou de ma famille, ou de mes amis, ou quelque chose d'autre. Ah, oh, mais je suis justifié, là. Il faut que je défende. On ne peut pas en parler. Mais quelle est la motivation? De lui montrer qu'il a tort, de montrer que j'ai raison, de montrer que je sais quelque chose que lui ne sait pas. Et c'est là où je dois faire attention avec mon orgueil. Vous serez surpris peut-être du nombre de fois que vous entendrez la voix du Saint-Esprit vous dire, arrête, ne réponds même pas. Tu as la vraie réponse, tu as la bonne réponse, mais ça n'a pas besoin d'être dit à ce moment-ci. Ou il nous dira, avant de parler, rappelle-toi qui t'a donné cette capacité de savoir ces choses ou de faire ces choses. Rappelle-toi que tu es doué dans ce domaine, mais que à la base et à la source, c'est moi qui t'ai donné cette capacité. Si on est déjà en train de prier et qu'on reconnaisse ce problème de l'orgueil dans notre vie, et qu'on est en train de prier à ce que le Seigneur nous montre les endroits, alors on entendra cette petite voix du Saint-Esprit qui nous dira, rappelle-toi, tu peux répondre, mais rappelle-toi. Et là, notre réponse sera remplie d'humilité, toujours la vérité, ou comme la Bible le dit, la vérité dans l'amour, pas la vérité dans l'orgueil et l'arrogance. Et ça, le nombre de fois que je l'ai entendu, et à chaque fois, ça m'a toujours resté à travers la gorge, je leur ai dit leurs quatre vérités. Je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un me donner cette expression de dire je leur ai donné la quatre vérités. Et qu'ils leur ont dit la vérité avec amour. Il dit, oui, mais c'était la vérité. J'ai rien dit de mal. Non, ce que tu n'as dit n'est pas mal. Comment tu l'as dit était mal. Et ils font pas la part de ces choses-là. Mais nous, pour chrétiens, si on a une entière soumission à Dieu, si nous avons une entière soumission à la volonté et à sa volonté et une volonté de le suivre à chaque instant, ce sera une aide indéniable dans notre recherche de rester éloigné de l'orgueil aussi. Page 14 nous montre le numéro 5 de ces 7 pas, étapes à faire. Une fois que nous avons fait ces prières et que nous sommes donc conscients de ce problème pendant la journée, rappelez-vous d'où le Seigneur vous a sauvé. Comment vous étiez et ce que vous êtes aujourd'hui. Aussi étonnamment que cela puisse être, beaucoup de chrétiens avec les années qui passent oublient un peu comment ils étaient avant leur conversion, ou comme c'est le cas pour certains ici, comme pour moi-même, qui ont été élevés dans une famille chrétienne, oublient ce qu'on aurait pu être si Dieu ne nous avait pas donné cette grâce d'être élevés dans une famille chrétienne. Comme l'apôtre Paul devait rappeler les chrétiens de Corinthe en donnant une description des inconvertis pour ensuite dire en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, et c'est là ce que vous étiez. Autrement dit, vous avez oublié. Vous étiez de ces personnes-là, vous aussi. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas, Vous avez été lavé, justifié, sanctifié par vos œuvres, par vos mérites, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. C'était une grâce que Dieu vous a donnée, que vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant. Donc arrêtez de juger aussi sévèrement les personnes que vous voyez maintenant. Et si nous, on se rappelle de cela, comment est-ce que cela ne va pas aider notre orgueil? Si je me rappelle ce que je serais sans Christ, ce que j'étais avant d'être sauvé aussi. On ne doit pas vivre dans le passé, c'est vrai, mais nous devons certainement apprendre de notre passé. Dieu nous a sauvés alors qu'on n'avait rien d'aimable. Même pour nous qui avons été élevés dans une famille chrétienne, ça ne change rien. On n'avait absolument rien d'aimable quand Dieu nous a sauvés. On n'avait rien pour attirer Dieu vers nous. On n'avait aucune raison à ce que Dieu dise « Ah, lui, il est tellement bien, je le veux dans ma famille. » On était tous, sans exception, répugnants devant ses yeux par rapport à nos péchés, mais qu'il a choisi de nous aimer quand même. Croyez-vous vraiment que maintenant que nous faisons partie de sa famille, que nous sommes ses enfants, qu'il va refuser de nous aider en plus de cela? De plus, de nous rappeler que Dieu nous a sauvés de nos péchés, de tous nos péchés, y compris celui de l'orgueil, de nous rappeler du sacrifice de Christ qu'il a payé sur la croix pour que je puisse être sauvé, ça devrait nous donner cette motivation qu'on a besoin pour avoir envie de nous débarrasser de cet orgueil. Ensuite, le numéro 6, demandez à Dieu de vous rappeler de toutes les bonnes choses qu'il a faites pour vous. Demandez à Dieu de vous rappeler ces choses. On le chante de temps en temps, on le chante, n'est-ce pas, contre les bienfaits de Dieu. Ça, c'est nous qui faisons un effort de par nous-mêmes à essayer de nous rappeler de toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour nous, de compter tous les bienfaits de Dieu. Mais vous serez peut-être étonné si vous prenez le temps de demander à Dieu spécifiquement, « Seigneur, remets-moi en mémoire, rappelle-moi, montre-moi tous tes bienfaits. » Il nous révélera des choses que... c'est même pas vraiment des choses qu'on n'avait pas vues, mais qu'on avait certainement pris pour acquis. C'est une petite chose. Et que Dieu nous montre, dit, non, ce n'était pas une petite chose, parce qu'il n'y a pas la moindre chose que Dieu nous ait donnée qu'on ait méritée. Même la plus petite des bénédictions est une grâce. Même la plus petite, pour ainsi dire, des bénédictions est une bénédiction que je ne méritais pas. Demandez à Dieu de vous rappeler de toutes les bonnes choses qu'il a faites pour vous. Une personne qui a de l'orgueil aura souvent l'habitude de se comparer aux autres. Bien entendu, il prendra plus de temps à se comparer à des personnes qui pensent être moins bien que lui. Mais il aime se comparer à toutes ces autres personnes, entre guillemets inférieures, pour se sentir important, mieux. Et quand on demande à Dieu de nous rappeler de toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous, on réalisera plusieurs choses. D'une part, comme on l'a dit, qu'on ne mérite pas toutes ces choses et que c'est par la grâce et l'amour de Dieu. Mais on réalisera aussi que si Dieu me fait ses grâces encore et encore, me donne toutes ces bénédictions les unes après les autres, c'est parce que j'ai de la valeur à ses yeux aussi. Et j'ai de la valeur, pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui Dieu est. Et c'est ça la différence. Parce que ça ne va pas nourrir mon orgueil. Ça devrait nourrir mon humilité. Seigneur, tu me fais grâce parce que tu m'aimes. J'ai de la valeur à tes yeux parce que Christ est mort pour moi. Je n'ai pas de la valeur. Moi, je pense avoir de la valeur quand je me compare aux autres. Mais la vraie valeur que j'ai, c'est à cause de qui tu es, toi. Et ça devrait nourrir mon humilité. Ça devrait également m'aider à réaliser que je suis unique. Comme on dit tout le temps, je suis unique comme tout le monde. Dieu m'a confié une tâche qui est la mienne, qui est à moi. Il y a des tâches, il y a des choses, des responsabilités que Dieu a confiées à tous les chrétiens, sans exception. Et il y en a d'autres que Dieu a confiées juste à moi. Il n'a pas confié la responsabilité de soutenir Suzanne et à Suzanne et à moi d'élever 3 enfants. Il les a donnés à nous, à personne d'autre. Il y a des personnes que Dieu utilise pour nous aider dans ce domaine, mais c'est nous qui devons rendre compte devant Dieu de quelle façon on s'est traité l'un et l'autre, et de quelle façon on a élevé les enfants que nous, qu'il nous a donnés. Entre autres, il y a Dieu nous donne des responsabilités spécifiques pour chacun d'entre nous. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Il m'a pas donné ces responsabilités parce que je suis quelqu'un de si important, mais que Dieu a donné et confié une tâche justement à tous ses enfants, sans exception. Il n'y a pas le moindre enfant de Dieu qui puisse dire que, à part les conditions générales que Dieu a dit, il faut être un témoin, etc., bah, il faut porter les fardeaux des uns des autres, ceux qui sont pour tous les chrétiens, à part cela, bah, Dieu m'a rien confié à moi personnellement, juste pour moi. C'est pas vrai. On a tous de la valeur. Et nous ne sommes pas un qui soit meilleur que l'autre. Aux yeux et au cœur de Dieu, je suis certain que nous avons tous la même valeur. Je ne pense pas que je puisse trouver le moindre verset qui me dicte, qui pourrait me montrer que Dieu m'aime plus qu'un autre. Tout comme je ne pourrais pas trouver un verset qui me montre que Dieu m'aime moins qu'un autre. Quand je demande à Dieu de me rappeler de toutes les bonnes choses qu'il m'a données, ça devrait me pousser à le louer, à l'adorer, à ne plus me focaliser sur moi. C'est ce que fait l'orgueil. L'orgueil dit, c'est moi le plus important. Mais ça devrait m'encourager et me motiver à louer Dieu et dire, c'est vrai, je ne mérite pas ces choses. Tu es un Dieu si bon. Et de me remettre focalisé sur lui et me motiver à rester fidèle là où le Seigneur m'a placé, ainsi que de garder les yeux sur lui, non centré sur moi. Et le dernier point, la septième étape, on a déjà parlé un petit peu, c'est de bien vouloir accepter, de bien vouloir faire face à l'adversité. À n'importe quel moment, quand on demande à Dieu de nous aider à nous débarrasser d'un péché spécifique, il faudra toujours s'attendre à ce que ce soit un certain combat. Que ça ne vienne pas facilement, que ça ne vienne pas du jour au lendemain, et que ça ne vienne pas sans que notre adversaire vienne essayer de nous empêcher d'arriver à ce but. Et même notre propre chair va lutter contre ce que nous demandons à Dieu de faire pour nous. Il faut qu'on accepte que ça va être difficile. Il faut qu'on accepte à faire face à l'adversité si on veut pouvoir laisser Dieu nous donner la victoire sur un tel péché, surtout comme l'orgueil. J'imagine que personne ici ne lèverait la main pour être volontaire, pour recevoir plus de difficultés, pour recevoir plus de déceptions, d'être déçu encore plus souvent. Personne ne lèverait la main pour dire, je veux avoir des choses qui me donnent encore plus de peine que je n'ai jusqu'à présent. Pourtant, on sait que Dieu utilise ces mêmes choses pour nous apprendre de très grandes leçons. Je ne dis pas qu'on doit prier pour des difficultés, je ne dis pas qu'on doit prier pour ces choses, mais qu'on doit les accepter quand Dieu décide que c'est pour notre bien qu'il les envoie vers nous, pour nous aider à grandir de façon considérable. Quand ces mêmes choses nous poussent vers Dieu, ça ne peut être qu'une bonne chose. Ah, c'est toujours pas plaisant. Mais à la fin, quand on se retrouve encore plus proche de Dieu, on serait les premiers à dire, je suis heureux. Merci Seigneur. Je ne regrette pas que ces difficultés aient été là, sinon je ne serais pas plus près de toi aujourd'hui. Rien ne pousse vers Dieu autant que les problèmes et les difficultés. On pourrait penser que les joies et les victoires nous pousseraient plus vers Dieu, mais ce n'est pas le vrai. On a exemple après exemple dans la Bible et dans notre propre vie, si on serait honnête et non orgueilleux pour ne pas l'admettre, c'est que dans les moments où on avait les plus grandes victoires, qu'on s'était éloigné de Dieu au lieu de s'y approcher. Jusqu'au moment qu'on a atteint cette victoire, on était proche, mais dès que la victoire était là, et parfois c'était dû à l'orgueil aussi. Oh, j'ai réussi. Ouais. Puis, ah, oh, ça c'était dur. C'était un long combat. Ouh, je me relâche un peu. Il me relâche, c'est-à-dire que Dieu continue sa route et moi je reste où je suis. Mais oui, rien ne nous pousse vers Dieu autant que les problèmes et les difficultés. Oui, on va vers Dieu avec des louanges, une vraie reconnaissance, mais quand l'urgence et la taille de la difficulté est en face de nous, on vient devant Dieu avec urgence et une entière soumission aussi. Quand on veut vraiment ce que Dieu réponde avec urgence à un problème qui nous est beaucoup plus grand que nous, on va s'assurer à ce qu'il n'y ait rien entre nous et Dieu qui va l'empêcher de répondre. On va s'assurer à ce qu'il n'y ait pas le moindre péché, qu'on confesse, qu'on soit fidèle, etc. On va s'assurer à ce qu'on soit le plus proche de lui que possible. Les mines de l'orgueil sont l'une des armes les plus meurtrières de notre adversaire. C'est la même mine qui l'a fait lui tomber du ciel. Et elle produit bien souvent le chaos dans notre vie. Elle n'a pas le pouvoir d'enlever notre salut. Elle n'est pas aussi puissante que ça. Il n'y a aucune arme qui soit aussi assez puissante pour ça. Mais elle est assez puissante pour nous rendre inutiles pour l'œuvre du Seigneur. Je suis certain qu'il y a un bon nombre de personnes qui ne sont plus au service de Dieu aujourd'hui et que l'orgueil est la raison principale. Et si c'était vrai pour eux, ça peut être vrai pour nous. La meilleure façon d'éviter les mines de l'orgueil est de constamment soumettre notre vie à Christ, de le laisser être en charge, de laisser Dieu être en contrôle de notre vie, de laisser Dieu être ce bon berger qui mène ses brebis. Que les brebis ne disent pas, oh ben j'en ai marre, je veux maintenant moi le berger. Je veux décider pour moi. Qu'on laisse Dieu être notre Père envers qui nous soumettons bien volontiers à son amour. Et on doit répéter ceci, même les 7 étapes, ensemble, chaque jour, tous les jours, si nécessaire, ou quand nécessaire. Et généralement, ça serait nécessaire. Chaque jour, d'admettre, Dieu, j'ai un problème avec l'orgueil. Si on a déjà péché, de se repentir. Si on n'a pas encore péché, de dire, Seigneur, aide-moi à avoir la victoire aujourd'hui sur cet orgueil. Montre-moi aujourd'hui toutes les fois où cet orgueil voudra grandir et faire surface. Et aide-moi à ne pas la laisser me contrôler. Et de continuer à prier, Seigneur, aide-moi à rester éloigné de ce péché. Et de continuer à de nous rappeler et de dire, Seigneur, dans cette même prière, rappelle-moi, même au courant de la journée, rappelle-moi de quoi tu m'as sauvé. Rappelle-moi de qu'est-ce que je serais aujourd'hui si ce n'était pas pour toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je n'ai pas de raison de me glorifier, mais toutes les raisons de te louer, toi. Et rappelle-moi, Seigneur, aussi, également de tous tes bienfaits, toutes les bonnes choses que tu as déjà faites pour moi. Et de même peut-être terminer la prière, dire Seigneur, si tu vois que tu as besoin de faire venir quelque chose de désagréable pour m'aider à avoir la victoire sur l'orgueil aujourd'hui, alors je te fais confiance. Donne-moi la sagesse et la force de pouvoir faire face à la situation que tu permettes. Mais Seigneur, aide-moi à ne pas succomber à l'orgueil aujourd'hui même. Répétez cela chaque jour, tous les jours, autant que c'est nécessaire. Ce n'est pas parce que Dieu m'a aidé à avoir la victoire sur l'orgueil hier que je n'ai pas besoin de son aide aujourd'hui. Au contraire, de croire cela, c'est déjà le début de l'orgueil que de penser ainsi. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de problème avec l'orgueil. C'est bon, j'ai plus de problème avec l'orgueil. C'est pas vrai. On va s'arrêter là pour ce soir.